C'est le pasteur Jean-Jacques qui nous parle de la parole du Seigneur. Ayez un cœur attentif et ouvert pour entendre ce que Dieu dit. Amen.
Alléluia. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Juges. Juges, chapitre 3, verset 12, il n'y a pas beaucoup de son. Juges 3, verset 12. Voilà, j'entendais prier pour Bruno. Vous savez que vous pouvez téléphoner à Bruno. Voilà, si vous n'avez pas le numéro de téléphone, vous me le demandez. Bruno aimerait pouvoir venir à un culte. Je vais demander de demander évidemment l'autorisation et il faudra aussi évidemment gérer le transport. On a une autre sœur pour laquelle on aura à gérer le transport, je vous en ai parlé, c'est Marie-Thérèse qui est endeuillée depuis quelque temps. Certains l'ont connue, elle veut revenir dans l'église. Pour le moment, elle est absente pendant un mois, mais elle est handicapée. Donc voilà, que le Seigneur nous aide en tout cas à trouver la bonne solution. Amen. Il faut que l'église soit solidaire, c'est vrai. Certains ont une voiture, elle est pour eux seuls. À moins que vous n'ayez qu'une place dans votre voiture. Et s'il y a plus de place et que vous disposez de place, pensez à ceux qui auraient besoin d'être transportés. Juges 3, verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites et il se mit en marche. Il battit Israël et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhud se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été et il dit « J'ai une parole de Dieu pour toi ». Églon se leva de son siège, alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'ils s'attardaient de la sorte, Éhud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séhira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des guets du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël et le pays fut en repos pendant 80 ans, voilà. 80 ans. Amen. Voilà, je voudrais d'abord observer une chose avec vous. C'est qu'il nous est dit que c'est Dieu qui a fortifié Églon, roi de Moab. C'est Dieu qui a suscité un adversaire à Israël. C'est Dieu qui a suscité le problème. Il y a des chrétiens, dès qu'il y a une difficulté, c'est Satan. Ça vient, selon eux, toujours de Satan. La Bible nous montre plein de fois que c'est Dieu qui a suscité. Ici, parce qu'il faut amener Israël à se ressaisir, à se reprendre, et Dieu peut susciter des choses pour amener quelqu'un à se ressaisir, pour amener l'Église à se ressaisir, pour amener l'Église dans une autre dimension. C'est peut-être aussi l'épreuve de la foi, hein. Dieu suscite des choses pour éprouver la foi. Et puis, il y a des problèmes aussi, il faut le dire, qui ne surviennent ni parce que Dieu serait derrière, ni parce que Satan serait derrière, mais parce que notre chair est responsable. Il y a des gens qui se mettent dans des difficultés en raison de leur choix, en raison de leur comportement par rapport à leur chair. Et le danger, si vous voulez, c'est que si on veut chasser Satan, alors que ce n'est pas Satan, et si c'est Dieu qui est derrière et qu'on veut... Vous imaginez qu'on serait amené à chasser Dieu. Ceux qui chassent Satan sans cesse, j'en ai vu, hein. Ils sont tout le temps en train de chasser Satan. Je pense qu'il faut du discernement pour savoir d'où vient le problème. Parce que si on ne discerne pas d'où vient le problème, qui est la cause, on ne va pas adopter la bonne attitude. Si c'est Dieu qui envoie, ça va susciter une forme de réaction, mais si c'est Satan, ce ne sera pas la même chose. Et donc, il nous faut bien examiner les choses et bien discerner. Donc, Dieu peut être derrière, et au cas particulier, il est derrière. Et je redis ceci, c'est que si quelqu'un impute systématiquement à Satan, il risque de ne pas discerner les vrais enjeux, et il risque surtout de ne pas adopter les bons remèdes. Et il risque de lutter contre Dieu. Alors, ça a duré quand même un certain temps. Israël semble être un peu long avant de se réveiller. J'ai entendu Dieu nous dire ce matin qu'il fallait que l'Église se réveille. C'est vraiment ma pensée. Hein. Parce que là, depuis qu'il y a le Covid, il y a une tendance quand même au sommeil. Hein. Je l'ai dit récemment, c'était pourtant pas la mouche cessée, le Covid. Mais on s'aperçoit que beaucoup se sont recroquevillés, alors que l'Église peut et doit pouvoir être en action. Alléluia! Alléluia! Et donc, il s'est écoulé du temps avant qu'ils n'en viennent à crier à Dieu, ou peut-être ils ont crié longtemps, parfois il faut crier longtemps aussi. Vous savez, aujourd'hui, on est dans la société de consommation. Hein. On demande, on veut recevoir tout de suite. Et par rapport à Dieu, certains sont comme ça, mais parfois il faut accepter qu'il y ait du temps. Et le temps peut être nécessaire pour qu'on se remette en question, justement, et pour qu'on discerne si notre prière même est juste, si elle est adaptée, appropriée. Donc il s'est passé du temps, et Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, va susciter un libérateur. Il avait suscité un ennemi, maintenant il est d'accord pour susciter un libérateur. C'est Ehud. Ehud qui me paraît bien seul au départ. Et parfois on peut se sentir seul. Hein. Il y a aussi un danger peut-être à penser qu'on est le seul. J'ai connu des gens qui pensaient qu'ils étaient les seuls. Mais même quand Élie a pensé qu'il était le seul, Dieu lui a dit il y en a 7000. Voilà. Mais quand bien même on pourrait être seul à un endroit particulier, eh bien Dieu peut faire qu'on puisse être un élément moteur comme va être Ehud. Mais vous observerez une chose. Quand Ehud va entrer en action, c'est quand même particulier, c'est parce que Israël l'envoie pour offrir un cadeau au roi de Moab. Ils veulent offrir un cadeau parce qu'ils se disent, si on lui offre un cadeau, on va être mieux vu. Et peut-être ça va alléger le joug, ce sera un peu plus facile. Au lieu de ne manger que du riz, on aura des pommes de terre. En plus. Non, je rigole. Hein. Mais vous comprenez, c'est pour dire que ça va être un petit peu mieux. Être bien vu. Le compromis. C'est le danger aujourd'hui, le compromis. De se dire, on va tâcher de s'adapter, alors quelques cadeaux, quelques présents offerts au monde pour que l'Église se sente plus à l'aise. Mais ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Il y a quelque temps, j'entendais un homme qui, lorsque il y a eu la débâcle de la France pendant la 39-45, lui, il a fait immédiatement le choix de lutter, de résister, de s'opposer. Et il dit que ce qu'il a fait le plus souffrir, c'est pas tant l'ennemi, c'est de voir tous ces Français qui finalement cherchaient à s'adapter au mieux pour essayer de vivre pas trop mal. Plutôt que d'entrer en résistance, ils cherchaient à s'accommoder. Et le danger, ce serait que l'Église cherche à s'accommoder. Plutôt que, comprenez, entrer en résistance, de quelle manière, bien sûr, de dire on veut nous tenir ferme dans les voies de Dieu et continuer de croire et d'espérer. Alléluia. Quand bien même c'est peut-être difficile. Et donc, ici, ils envoient Ehud pour finalement câliner, si j'ose dire. Hein, un petit câlin au roi de Moab est un petit peu mieux vu, ça s'arrangera. Alors on se demande, il crie à Dieu, puis d'un autre côté, il cherche des petites combines pour que ça aille mieux. Mais heureusement, Ehud a l'intention de faire autre chose. Non seulement il a offert le présent, mais nous l'avons lu, il va revenir et il va tuer l'ennemi. Il nous est dit que Ehud ne se servait pas de sa main droite. La traduction Chouraki dit qu'il était gauche de sa main droite. Il était maladroit. Littéralement, il était fermé quant à sa main droite. Il ne pouvait pas s'en servir. Il était lié de sa main droite. C'est-à-dire que, si je comprends bien, en fait, c'était un handicap. Il n'est pas naturellement gaucher, mais il a un problème du côté de la main droite, de sorte qu'il est obligé de se servir de la main gauche. J'ai envie de dire qu'il doit être gauche avec sa main gauche. Il a un handicap non négligeable. Mais Dieu peut-il se glorifier dans la vie de quelqu'un qui a un handicap? Malgré le handicap. Alléluia! Peut-être quelqu'un a besoin de ça, d'entendre dire, ou peut-être quelqu'un se voit handicapé, je peux pas, mais Dieu peut! Alléluia! Alléluia! Et nous allons le voir, le handicap va même devenir un avantage. Dieu peut transformer les choses. Alléluia! Il nous est dit que Ehud était le fils de Guéra. Et un Guéra, en ce temps-là, désignait la plus petite unité de poids. C'est ce qui pèse le plus léger, c'est le moins. Le Guéra, c'est l'insignifiant. Il est le fils de l'insignifiant. Il est le fils de celui qui pèse pas lourd. Et lui-même ne pèse pas lourd, si j'ose dire. Ça pèse pas lourd et en plus c'est handicapé. Est-ce que Dieu peut se servir d'un tel homme? Eh oui, la preuve en est, hein, on l'a lu. Mais au départ, peut-être que si on avait dit, lui il était tout juste bon à aller offrir le cadeau. On ne s'attend pas à ce qu'il puisse être un héros. Mais Dieu sait se servir des choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Notre faiblesse peut devenir une force si nous acceptons que Dieu puisse se manifester. Alléluia. Alléluia. Guéra, ça veut aussi dire grain. Grain. Si vous aviez la foi, et si nous avions la foi comme un grain de sénévé. Alléluia. Alléluia. Ce qui va quand même être caractéristique pour cet homme, c'est la foi. Vu ses handicaps, si j'ose dire, il vaut mieux qu'il ait la foi. Hein. Sinon, il va se faire payer en pièces. Hein. Alléluia. Et puis le grain, vous savez que si le grain ne meurt, il n'y a pas la semence. C'est ce qui est dit au sujet de Jésus, mais pour nous-mêmes aussi, finalement, il faut que nous mourions à nous-mêmes. Alléluia. C'est parfois notre nature, c'est notre vie, c'est notre chair qui constitue l'obstacle. Il faut savoir mourir à soi-même. Il faut savoir souffrir aussi. Alléluia. Mourir à soi-même, mais manifester la foi, c'est ce qui va permettre d'être fort. Alléluia. Pour être fort, il y a aussi une chose qui se trouve dans le nom de Ehud. Le nom de Ehud signifie uné, uni, non divisé, fort. Quand l'Église est unie, elle est forte. Quand elle n'est pas divisée, elle est forte. Que fait le diable? Il s'arrange, mais parfois il n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Malheureusement, les hommes sont capables eux-mêmes de se désunir, de se diviser, et l'Église divisée ne peut pas grand-chose. Il faut que nous soyons unis. Alléluia. Non divisés. Et là, nous serons forts. Il y a la force que Dieu donne à cet homme, mais il y a aussi la force qui se trouve dans l'unité. Et l'unité, elle vient de qui ? Elle vient du Saint-Esprit. Alléluia ! Et quand l'Église est divisée, ça veut dire qu'il lui manque quand même le spirituel, puisque finalement, elle contrecarre ce que le Saint-Esprit fait. J'ai entendu plein de diviseurs qui, soi-disant, c'est toujours au nom de Dieu. Mais non ! Et ça ne peut pas être conduit par l'Esprit tout de même. Alors je reviens, il y a la notion de souffrance, le grain. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent le succès, le triomphe de la foi sans les efforts. C'est vrai, hein ? On voudrait pouvoir commander. Seigneur, je suis dans le canapé, agis. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a des efforts. Et il faut que l'Église soit prête à faire des efforts. Alléluia ! Avec le Seigneur, parce qu'on peut aussi faire des efforts, mais si ce n'est pas avec Dieu, ça ne servira à rien. Mais il y a des efforts, effectivement, qui doivent être accomplis. Et puis, puisqu'on parle de grains, même si ça a été évoqué hier, l'Église de Sens n'évangélise tout de même plus beaucoup. Je le mets sur le cœur, mais il faut pourtant que l'Église évangélise. Amen. C'est une nécessité. Alléluia. Alors cet homme, il se fabrique une épée à double tranchant. Vous savez ce que c'est l'épée à double tranchant ? C'est la parole de Dieu. C'est une référence ici à la parole de Dieu. Il se fabrique une épée à double tranchant. La parole de Dieu est indispensable. Alléluia ! Alléluia ! Vous savez, il y a des chrétiens qui se laissent berner aujourd'hui par tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Donc, hop, quelqu'un se présente, je suis le plus grand des prophètes du monde. Hop, en avant. Aujourd'hui, c'est à celui qui proclame plus sa grandeur qui sera accordé confiance. Mais moi, je préfère accorder confiance à la parole de Dieu. Jésus dit que certains, effectivement, se recommandent eux-mêmes et qu'ils sont reçus. Israël recevait plutôt ceux qui se recommandaient eux-mêmes que celui qui était recommandé par Dieu. C'est quand même terrible. Alors l'épée, elle est cachée. Vous relirez, il la cache. Alors on comprend pourquoi il la cache, bien sûr, parce qu'il n'a pas intérêt à ce que l'adversaire la voie. Mais l'épée cachée, ça a aussi un sens significatif. Vous savez, il y a des gens, ils font étalage de leur foi. Vous les écoutez, ils font étalage de leur connaissance, ils font étalage de ceci, ils étalent. Souvent, c'est du feuillage. C'est le feuillage. Il y en a, ils ont beaucoup de feuillage, hein. Mais il y a une chose qu'il faut trouver, c'est le fruit. Et certains, il n'y a que du feuillage. J'aime mieux qu'on soit plus discret et plus humble, mais qu'il y ait du fruit. Ce qu'on va chercher, ce qu'on va venir chercher, c'est le fruit. Hein. Ce que Jésus recherche, c'est le fruit, ce n'est pas le feuillage. Alors faire étalage, bon, ça plaît à celui qui en fait, finalement qui fait étalage. Parfois les autres se disent, on sait, hein. Mais ne soyons pas de ceux qui étalent, mais soyons de ceux qui ont, effectivement, qui manifestent le fruit de l'Esprit. Alléluia ! Mais aussi l'épée cachée, ça nous parle de la vie intérieure. La parole de Dieu doit être appliquée sur notre vie intérieure. Amen ! Parce que c'est de là que découle le reste, finalement. Il faut que nos cœurs soient touchés par la parole de Dieu. Il y a plein de gens qui vont pouvoir nous réciter des versets bibliques, mais est-ce qu'ils sont dans les cœurs ? On a vu des maisons même où vous avez des versets bibliques partout, dans toutes les pièces. C'est bien. Mais on a connu des gens qui avaient beau avoir les versets, et c'était eux qui les avaient mis, quand on voyait ensuite ce qu'ils avaient commis de péché, il faut que ce soit le cœur, alléluia, qui soit touché. Alors cet homme, il va placer l'épée en fonction évidemment de sa capacité à manier l'épée. Si nous sommes droitiers, l'épée, on la met côté gauche. Parce que s'il faut... imaginez une longue épée. Donc c'est comme ça. Mais lui, il la met de l'autre côté, c'est-à-dire généralement là où on ne la met pas. J'ai découvert que les chevaliers, et ce serait une des origines des poignées de main, les chevaliers tendaient la main droite pour voir si la main droite de celui qui était en face d'eux était... dénudé, s'il était bien intentionné ou s'il y avait l'épée ou le poignard, puisque c'est cette main droite qui tue. Donc on se serrait la main Alors, on pouvait se faire avoir par le gaucher. Hein. Vous avez compris. Et donc, ils ont dû vérifier, effectivement, se dire, il n'y a pas de problème, ils l'avaient caché. Mais en plus, ils l'avaient caché du côté où on ne l'attend pas. C'est là où je vous dis que le handicap, tout d'un coup, devient un avantage. Le handicap devient un avantage au cas particulier. Bien sûr, ce qui est déterminant, c'est la foi de cet homme. Et c'est le Seigneur qui est derrière. Alléluia. Amen. Vous savez, bien souvent, il faut que Dieu nous dépouille. Il faut qu'il nous dépouille. Hein. Il y a des grands hommes de Dieu, Dieu a parfois mis des années pour les dépouiller. Moïse, 40 ans. Au bout de 40 ans, il ne cause plus. La langue engourdie, hein. Il dit, je ne peux plus moi, je vois que des bêtes, alors je leur parle un peu, mais quand même. Et David, c'est quand il s'est retrouvé au plus bas que Dieu a pu alors le mettre sur le trône. Parfois il faut qu'on soit dépouillé de nos capacités, de nos forces, pour que ce soit Dieu qui agisse. Alléluia, amen. Alors, nous l'avons vu, évidemment, eh bien, Ehud va éliminer l'adversaire, mais il va d'abord repartir, puis il va revenir. Il nous est dit que Ehud revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal. Gilgal a aussi une signification dans la Bible. Gilgal, c'est là où il y a eu la circoncision, c'est-à-dire le dépouillement de la chair. Il a fallu, pour que Israël conquière, qu'il y ait le dépouillement de la chair. Comprenons, ça a été fait physiquement, mais c'est le sens spirituel pour nous qui est important. Le dépouillement de la chair. Mais Gilgal, ça nous parle aussi pour nous de la croix. Et Israël a commencé la conquête depuis Gilgal. Ils sont allés à Jéricho. Et puis, ils étaient tellement sûrs d'eux, tellement fiers. Ils ont dit, c'est pas la peine de retourner à Gilgal, on va pas perdre du temps quand même. On va envoyer quelques hommes, on va se débarrasser de la ville d'Aï. Ils ont fui devant Aï. Et là, ils sont retournés à Gilgal. Ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, c'est la croix. Il nous faut toujours, il faut que tout parte de la croix et il faut que nous revenions à la croix. Et parfois, nous oublions. Hein. Et c'est là où parfois le succès est suivi d'échecs. Nous avons oublié de revenir à Jésus. Nous avons oublié finalement de revenir dans l'humilité devant le Seigneur. Peut-être nous avons commencé à nous attribuer les succès. Hein. La croix doit toujours être au centre. Alléluia. Elle est au commencement, elle est à la fin et elle est au centre. C'est Jésus, bien sûr. On ne va pas tous emmener une croix, vous avez bien compris ça. Hein. Le dépouillement de la chair. Et nous l'avons dit tout à l'heure, il fallait... Et il faut que Dieu nous dépouille finalement, il faut que nous soyons dépouillés de notre chair pour que nous puissions permettre à l'Esprit de Dieu effectivement d'agir et de nous conduire dans la victoire. Alors Ehud va tuer le roi de Moab, il est revenu de Gilgal, il tue le roi de Moab et après cela il va rassembler le peuple, il rassemble, alléluia, son nom je vous l'ai dit c'est uni, amen, le succès il ne peut pas être acquis par lui seul. Il a pu être au commencement, mais il faut associer le peuple. Et il l'associe à tel point qu'il dit finalement, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains. » Il ne dit pas « entre mes mains hein. ». L'orgueilleux aurait dit « entre mes mains, suivez-moi ». Lui dit « c'est entre vos mains », parce que c'est pour le peuple, mais c'est aussi le peuple qui doit finalement maintenant concrétiser la victoire. Alléluia ! Cet homme n'oublie pas que ce doit être la victoire de tous et qu'elle vient de l'Éternel. À aucun moment il ne s'attribue quelque supériorité que ce soit. C'est important le corps de l'Église. Alléluia. C'est important le corps de l'Église. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas compris le corps de l'Église et qui se tiennent à l'écart du corps de l'Église. Mais ils ont loupé quelque chose d'essentiel parce que Jésus aime l'Église. Et il est pour le rassemblement. Église, le vrai mot, c'est assemblée. Et dans le combat spirituel et dans la prière, il faut que l'Église soit rassemblée, il faut qu'elle soit unie. Alléluia. Amen. Bien sûr qu'il peut y avoir quelques-uns, mais le but, c'est que ces quelques-uns puissent dire aux autres, suivez-nous, parce que Dieu veut livrer entre nos mains. Amen. Sinon, il y a un danger, c'est qu'il y a des gens, après, ils finissent par être mis sur un piédestal. Et certains aiment bien ça. Mais si c'est l'ensemble du corps, personne ne pourra dire, c'est grâce à moi. C'est l'ensemble et c'est le Seigneur, finalement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il rassemble. La victoire appartient à Dieu. Mais encore faut-il que nous puissions et que nous acceptions de nous mettre à disposition de Dieu, entre les mains de Dieu, que nous ayons la foi. Et peut-être si là, quelqu'un est en train de gémir, à regarder son handicap, sa faiblesse, qu'il puisse cesser et dire, Seigneur, tu es celui qui est capable de me rendre fort. Amen. Alléluia. Solidarité du peuple, unité du peuple, tous ensemble. Ils vont obtenir une grande victoire. Il nous est dit qu'ils s'emparèrent des guets du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. À partir de ce moment-là, ils se sont dit, rien de ce qui est étranger, rien de ce qui est ennemi au peuple de Dieu ne doit passer le Jourdain. Nous voulons être séparés. Alléluia. Aujourd'hui, on a ouvert peut-être les guets, les portes, et le monde entre dans nos vies, dans l'Église, etc. L'Église ne gagnera jamais par ça. Au contraire, elle sera toujours plus affaiblie. Ne nous y trompons pas, le monde n'aime pas l'Église. Regardez Apocalypse, ce qui arrivera bientôt. Il y a une prostituée qui est associée au monde. Et la prostituée au sens biblique, c'est une Église. Et il y a une Église qui va s'associer au monde. Mais le monde va accepter, aimer, entre guillemets, alors avec des gros guillemets, hein, cette Église jusqu'à un certain point et après ils vont l'éliminer. Parce que le monde n'aime pas tout ce qui rappelle Dieu, même si c'était d'ailleurs quelque chose qui ne soit pas vraiment en accord avec Dieu. Mais le monde n'aime pas Dieu, et encore moins Jésus. Hein. Et donc, s'il y avait des victoires acquises dans la compromission avec le monde, elles aboutiront forcément à des défaites. Et il ne restera rien. Que l'Église puisse rester attachée à son Seigneur. Alléluia. Et d'ailleurs, le sens de l'Église, ce sont ceux qui se séparent d'eux, se séparent du monde, se séparent de toutes ces choses pour s'occuper des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Ils prenaient soin désormais de ne plus permettre à l'ennemi d'entrer, de ne plus permettre même à quelque influence que ce soit d'entrer. Et nous devons veiller aussi, effectivement, à ce que le péché ne s'infiltre pas dans nos vies et ne s'infiltre pas dans l'Église. Amen. C'est un défi. Vous savez, dans l'Église, beaucoup de gens aujourd'hui cherchent surtout à trouver les solutions qui viennent de Dieu, mais ne sont pas toujours disposés à être saints ou à se sanctifier. Et puis encore une fois, je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que les gens disent, moi ce que je regarde, c'est la réalité, c'est le fruit. Non pas ce qu'ils disent être, ce qu'ils sont. Parce que des discoureurs, j'en ai connu des collections. Mais à quoi bon se tromper soi-même, tromper les autres et tromper Dieu? On ne peut pas tromper Dieu. Il vaut mieux qu'on soit vrai. Et si ici le peuple avait besoin de revenir à Dieu, Dieu a suscité des choses pour qu'il revienne à Dieu. Et parfois il faut que Dieu suscite des choses pour que l'Église revienne à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi le contexte dans lequel on vit ne sera pas perçu de la même manière selon que l'on est chrétien ou pas, selon que l'on ait la foi ou pas, selon qu'on ait le discernement des choses par le Saint-Esprit ou pas. Malheureusement, on voit que l'Église aujourd'hui est chaotique parce que, justement, elle est soumise à tellement d'influences que l'un dit comme ceci, l'autre dit comme cela, et elle prophète un tel, et ceci et cela. Attendez, on a une parole. Pour moi, la garantie, c'est la parole de Dieu à l'arrivée. Amen. La conséquence de cela, c'est que le pays fut en repos. Amen. Moab fut humilié sous la main d'Israël et le pays fut en repos pendant 80 ans. Merci Ehud, mais surtout merci le Seigneur en vérité. 80 années de repos. Waouh. Peut-être quelqu'un est dans le trouble. Le repos se trouve dans le Seigneur, parfois dans le retour au Seigneur, le retour à ce qu'on a vécu et ce qu'on a peut-être mis de côté. Ils ont retrouvé, ils ont trouvé du repos. Avant ça, ils ont essayé d'arranger les choses, je vous l'ai dit. On va faire des cadeaux, on va essayer de discuter, dialoguer, se faire bien voir par le roi de Moab. Ça ne marche pas. Si on accepte d'être asservi, on sera asservi et ce sera pire, toujours pire. Mais si on décide d'être libre, il y a un prix à payer, il y a un combat à mener, il y a la foi à manifester. Alléluia. Il y a peut-être un retour à l'unité, retrouver la maison de Dieu. Retrouver la parole de Dieu, permettre à la parole de Dieu d'être dominante dans notre vie. Amen. Il y a des chrétiens, ils n'aiment pas toute la parole. Il y a des passages qui les gênent. Hein. Et plutôt que de dire, puisque c'est écrit, je n'ai pas le choix, il faut que je comprenne et que j'accepte. Non, ils vont circuler à droite à gauche pour essayer d'entendre quelqu'un qui leur dise que ce n'est pas tout à fait ça, il faut réactualiser. Paul, c'était dans le temps. La parole de Dieu a été dictée pour notre bien. Amen. Alléluia. Alors pour retrouver la paix, peut-être pour quelqu'un, il faut tout simplement revenir au Seigneur. Il faut se séparer du péché, du mal. Parfois, c'est ça le problème, tout simplement. Hein. Les choses qui nous assaillent. Vous savez, il y a des gens, c'est un peu le cas de Salomon. Comme Salomon ne se comportait pas bien, Dieu lui a suscité. C'est Dieu qui a suscité, pas Satan. C'est Dieu qui a suscité des ennemis à Salomon pour l'obliger à se repentir. Dans toute sa sagesse, Salomon se serait attendu à quoi ? À ce qu'il se repente. Au lieu de ça, il a cherché à tuer les ennemis. C'est-à-dire, il a cherché à se débarrasser du problème plutôt que de résoudre la source du problème. Il s'est attaqué à la conséquence plutôt qu'à la source. Ça ne marche pas parce qu'il pouvait en aller. Il y en a un qui a dû s'enfuir en Égypte, il y en avait un autre qui... Dieu pouvait en relever un autre, et un autre, et un autre. Et donc c'était la source, il fallait que Salomon revienne à Dieu. Ça nous parle parce que Salomon, dans toute sa sagesse, ou n'a pas su discerner, ou bien il a discerné, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Et peut-être que les femmes, justement, qu'il avait prises, l'influençaient, le compromis, les mélanges, ont perdu cet homme. Parce qu'à l'arrivée, quand on sait toutes les éloges qu'on peut faire à cet homme compte tenu de sa grande sagesse, on a envie de dire à la fin, quel gâchis quand même. Et au fond, ce qui va rester, c'est le gâchis. C'est ça le pire. Si on a fait plein de bonnes choses, mais qu'on termine mal, il reste qu'on a mal fini. Et Salomon est à l'origine de la scission du peuple d'Israël, d'une division, etc. C'est pas brillant, hein. Mais ça nous rappelle combien nous devons être sages. Alors nous avons plus que Salomon, non pas nous, hein, mais Jésus. La sagesse, elle est dans le Seigneur. Alléluia. Et il nous faut puiser dans la sagesse de Dieu. Amen. Afin d'être fort, peut-être faut-il pour quelqu'un retrouver l'unité de l'Église, peut-être pour quelqu'un d'autre, effectivement, prendre position et dire j'ai compris qu'il y avait des choses qui entravaient ma marche et que ce n'était pas nécessairement l'autre. Dieu peut avoir suscité quelqu'un. Plutôt que de lutter contre ce quelqu'un, c'est peut-être dire il l'a suscité pour que moi je change. Amen. Si c'est Dieu qui a suscité, il faut au mieux que nous puissions le comprendre, l'accepter afin d'être victorieux. Amen. Alors que le grain de blé puisse mourir, que nous mourions à nous-mêmes, que nous puissions avoir cette foi authentique, ce grain de s'élever, alléluia. Quand bien même nous sommes petits et beaucoup vont considérer que nous sommes ainsi, Dieu peut opérer des choses remarquables par notre intermédiaire, alléluia. Et cet homme, finalement, a eu un impact sur tout Israël pour 80 années. Waouh ! C'est beaucoup, 80 ans. Qui a 80 ans ici ? Personne. C'est long, hein ? Qui est si près de 80 ans que je ne le sache point ? Ah, il y en a dans les 60. Oui, tu dépasses 70 ? Ah, ouais. Et c'est long, hein ? C'est long, une vie. Mais imaginez 80 ans de paix sur un pays. Waouh ! Alléluia ! Une vie totalement dans la paix du Christ. Que Dieu nous aide. Amen. Seigneur, nous voulons avoir un tel impact. Et c'est vrai que parfois nous nous lamentons parce qu'il y a les circonstances, parce qu'il semble que Satan ceci, Seigneur, tu es plus grand que Satan. Et parfois même, ça peut être Satan et ça peut être toi qui l'as suscité, comme pour Job. Alors Seigneur, on ne veut pas faire partie de ceux qui larmoient, qui se lamentent. Mais Seigneur, quand bien même nous serions maladroits de la main droite, Seigneur, nous savons que nous pouvons faire quelque chose de la main gauche. Au fond, c'est la main de Dieu qui arme. Alors Seigneur, nous avons compris l'importance de la parole, l'importance aussi de la vie secrète finalement. Seigneur, nous ne voulons pas faire de l'étalage. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étalage, mais Seigneur, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais la réalité, elle n'est pas là. Alors Seigneur, nous préférons être humbles, reconnaître aussi nos lacunes, nos faiblesses, et venir à toi et te demander ton secours. Seigneur, nous croyons que nous pouvons encore impacter sur la société, que nous pouvons encore impacter sur l'Église, que nous pouvons impacter positivement sur les plus démunis, sur les plus malheureux, sur ce monde, Seigneur. Fais-nous grâce. Donne à l'Église la vision, la bonne vision, Seigneur, celle qui vient de Dieu par le Saint-Esprit. Non pas ce que les hommes disent et proclament, mais Seigneur, ce que toi tu dis et tu proclames. Et quand bien même l'homme proclamera des choses, Seigneur, ce qui compte pour nous, c'est de savoir ce que tu as préparé pour que ton Église soit lumière, comme ça a été rappelé hier par le pasteur Alain, Seigneur. Merci, on veut être des lumières. Sois loué, sois béni, Seigneur. Merci pour les bien-aimés, Seigneur. Pour ceux qui sont faibles, Seigneur, je sais qu'il y a une force que tu veux communiquer. Si quelqu'un se croit trop fort, Seigneur, alors qu'il accepte de s'humilier pour ne pas reposer sur sa propre sagesse, mais nous voulons reposer sur ta sagesse, sur ta force. Sois béni, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.